Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, émission numéro 79. Cet entretien est avec Jean-Paul Chapon, en charge de la gouvernance web et de l'entreprise 2.0 chez la Société Générale. Avec son expérience précédente chez Alcatel-Lucent, Jean-Paul est quelqu'un qui connaît étroitement la transformation en interne amenée avec l'arrivée du web 2.0. On parle dans cet entretien des clés de succès pour aider dans cette transformation, l'importance de la cohérence entre la stratégie en interne et en externe, ou de la part de la culture et du secteur. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog minterdial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré à Paris dans les diverses réunions et rendez-vous sur le digital. Quelqu'un qui a une expérience réelle très intéressante dans deux sociétés intéressantes et pertinentes dans tout ce qui est à trait avec les médias sociaux, les médias digitaux et le web 2.0. Avec cela, Jean-Paul, peux-tu nous présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais?
Bien, bonjour, je suis donc Jean-Paul Chapon, je suis en charge de la gouvernance web et des aspects 2.0 à la Société Générale, donc Société Générale, grande banque française européenne, et donc avec en charge deux aspects, un aspect qui est vraiment de la gouvernance web, je dirais un petit peu plus classique, que ce soit en interne ou en externe, intranet, internet, et le développement de toutes les fonctionnalités 2.0 en interne comme en externe, l'e-réputation pour faire vite ou la stratégie de Société Générale sur les réseaux sociaux.
Alors, ça fait combien de temps que tu es aux Société Générale?
Alors, j'ai rejoint la Société Générale il y a 2 ans et demi.
Et avant, tu étais à Alcatel. Tu peux nous expliquer ce que tu as fait à Alcatel?
Alors, auparavant, je travaillais pour Alcatel-Lucent, où j'avais un petit peu des fonctions analogues, peut-être plus avec un focus plus fort sur l'interne. Et parmi mes dernières missions se trouve le développement de fonctionnalités 2.0, c'est-à-dire ça peut commencer par la première brique qui est l'ouverture de commentaires sur un intranet et jusqu'à la participation à la mise en place d'un réseau social interne.
Alors, toi qui as eu une expérience chez Alcatel, puisque évidemment on en a partagé, je t'ai entendu parler là-dessus, l'expérience Alcatel a été éminemment réussie. Quels étaient les facteurs clés de succès pour cet état d'esprit 2.0 bien rempli, aussi bien en interne qu'externe?
Il peut y avoir plusieurs facteurs. En fait, le milieu professionnel dans lequel on se trouve peut avoir un impact différent. Si je compare une société high-tech comme Alcatel-Lucent avec une banque, même si dans une banque, il ne faut pas négliger la part de population plus high-tech. Une banque, c'est quand même des ordinateurs, un réseau, des terminaux, donc une très forte population informatique. Il n'y a pas que ça. Et il y a des points communs, il y a des grandes différences. Point commun, ça peut être quelque chose qui arrive un petit peu par la base, on sent qu'on est mûr, qu'on est prêt à adopter, que ça bouillonne un petit peu, qu'il y a un petit peu de shadow IT à droite, à gauche, qui porte des projets. Et puis, un des facteurs qu'il faut le reconnaître permet de porter ces projets, c'est le support du top management. Alors, on se retrouve pas à une problématique, est-ce que ça doit venir de la base, est-ce que Il faut qu'il y ait un support du sommet de la pyramide, il faut le deux à mon avis. Et par contre, j'imagine que sans le support du top management, très difficile de mener à bien de tels projets. D'une part parce que il y a quand même un minimum d'investissement à faire pour déboucher sur quelque chose de solide, et d'autre part parce que ouvrir le 2.0 dans une entreprise, c'est quand même une très forte transformation d'entreprise. Il faut que ce soit assumé et accepté.
Oui, certainement, par l'eau. Et alors, donc, tu avais évidemment un chef à Alcatel qui lui bloguait, qui donnait beaucoup d'appui là-dessus. Et donc, comme tu dis, il y avait aussi le bottom-up aussi, ce que je comprends, à Alcatel.
Oui. Il y a eu des initiatives en venant quand même en général de l'IT ou d'individus qui testaient, qui ont développé des petits pilotes, qui ont réussi à se faire entendre, à convaincre. Et des relais, c'est-à-dire que là, on s'est trouvé avec une conjoncture qui était à la fois l'arrivée d'un nouveau CEO, la volonté d'ouvrir, de transformer la boîte, et des initiatives qui ont fini par être portées.
Alors, quand tu as rejoint Société Générale, t'es venu avec on va dire un portefeuille d'outils. En tout cas, d'expériences qui t'ont réussi à Alcatel. La question clé pour moi, c'est qu'est-ce que tu as pu garder et implémenter avec succès et qu'est-ce qui n'était pas transposable puisque les cultures sont en effet différentes?
Ce que je dirais, c'est que c'est très intéressant de passer d'un univers à un autre très différent. Ce qu'on garde, c'est des convictions, et ce qu'on apprend, c'est le réalisme. C'est-à-dire qu'on peut se forger des convictions sur comment faire évoluer une entreprise, qu'est-ce qui est bon. On peut être convaincu que le 2.0 est une des clés de compréhension ou une des clés de l'époque dans laquelle on vit. D'un autre côté, d'une entreprise à l'autre, il y a des réalités différentes, il y a des cultures différentes, il y a des infrastructures différentes, il y a des enjeux complètement différents, et puis il y a des métiers différents. C'est-à-dire que une banque, c'est une banque. Il y a peut-être plus de difficultés liées à des problèmes de compliance, de régulation, etc., ce qui font que on peut pas transposer de la même façon ce qui se passe. Il y a une échelle de temps qui est pas forcément la même, une taille qui peut être différente et qui fait que il faut revoir ses certitudes, mais pas les abandonner.
Je comprends. Il y a cette notion d'avoir acquis des expériences, des victoires, et ensuite il faut les adapter et trouver son chemin. Mais justement, si quelqu'un est en train de t'écouter et qui travaille dans une autre entreprise et qu'il estime être un peu l'évangéliste quelque part du 2.0 dans l'entreprise, quelles sont les consignes? Parce que je dois naviguer, comme tu as dit, il y a la culture, il y a les enjeux, il y a les métiers, les réglementations, il y a tellement de choses. Comment est-ce qu'on peut, quel blueprint, comme on dit en anglais, quel plan d'attaque on peut avoir pour essayer d'amorcer le sujet?
Faut y aller. Faut y aller. Ouais, avec un petit peu de recul, ce que je me dis, c'est que plutôt que d'essayer de faire la liste des obstacles, on voit beaucoup de témoignages ou de positions en disant oui, mais alors là, ça sera le middle management, là, c'est le top management qui va être l'obstacle, qui va faire que ça ne marchera pas, que ça sera plus difficile, que ça sera plus lent, etc. Difficulté à convaincre. Non, il faut y aller. Il faut y croire, il faut y aller, il faut avoir la volonté de le faire. Et puis, il faut convaincre en même temps. Le mot évangélisation est certainement un des mots que j'utilise le plus souvent. Il faut trouver toutes les occasions pour convaincre, pour expliquer, pour démystifier ou démythifier ce qu'on veut faire. C'est vrai que dans des entreprises, surtout quand elles sont culturellement moins proches de ces évolutions actuelles, on se retrouve avec, dans le meilleur des cas, si je prends un réseau social d'entreprise, on va me dire que c'est la machine à café numérique. Dans le pire des cas, c'est pas sérieux, c'est ce à quoi je joue mes gamins.
Alors, donc, pardon, vas-y.
Il faut vraiment y aller, expliquer, même pas par des petites choses, c'est-à-dire je suis responsable de la présence sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et ben je vais trouver toutes les occasions pour montrer ce que c'est Twitter, à quoi ça sert, quelles opportunités on peut y trouver, quels risques, bien sûr, on peut courir dessus, mais ne pas dire, oh là là, on n'y arrivera jamais, il faut y aller.
Oui, alors justement, tu parlais des cafés. Ce que tu me disais, c'est que tu avais instauré des cafés, des pauses, enfin, des cafés digitaux, quelque chose comme ça.
Alors, oui, toujours dans cette idée de pédagogie, d'évangélisation, c'est un projet que j'avais commencé à l'époque chez Alcatel-Lucent. On avait appelé Café Wiki parce que bah, ça sonnait bien, ou il fallait qu'on trouve un nom, et dont le but était de familiariser les collaborateurs avec tous ces nouveautés des réseaux sociaux. En fait, c'était aussi pour répondre au début à des questions qui parfois peuvent être agaçantes, du genre, je veux ouvrir un blog, pourquoi faire? Bah, je sais pas, de toute façon, c'est quoi un blog, un wiki? Bah, c'est pareil. Donc, on s'est dit, oh là là, il y a beaucoup de pédagogie à faire si on ne veut pas avoir un échec, c'est-à-dire, on a des populations qui connaissent bien, qui sont pratiquantes, qui sont en ligne, etc. On en a d'autres qui le font beaucoup moins, qui font beaucoup de confusion, qui pensent que c'est un petit peu tendance et qui risquent d'ouvrir le mauvais outil, la mauvaise plateforme par rapport à un besoin réel qui sentent. Donc, on a lancé ces premiers cafés où on expliquait bah, c'est quoi la différence, comment je vais sur Twitter, qu'est-ce que j'y fais, c'est quoi Facebook. C'était d'ailleurs, quand on a commencé à faire ça, vers 2009, les réseaux sociaux étaient déjà bien partis, mais pas à ce moment-là et surtout pas dans l'entreprise.
Alors, si je prends par bout les éléments qui... Enfin, on va dire.
Et pour finir, d'ailleurs, on a relancé, bien sûr, chez Société Générale, ces cafés. On a baptisé tout simplement Café 2.0.
D'accord. Mais alors, il y a un certain nombre d'outils, on va dire, qui sont à ta disposition pour arriver à faire cette transformation dont tu parles. Je prends quelques-uns. Il y en a un qui est la valence du chef. Tu dis qu'il ne faut pas. Il y a pas que du en haut vers le bas, parce qu'il faut le bas en haut, mais si le chef n'est pas disposé à le faire, quelles sont les consignes que tu peux donner, des recommandations, pour avoir un appui quand même?
Ça dépend certainement des secteurs d'activité, hein. Une nouvelle fois, je pense pas qu'il y ait une recette miracle. Si je prends ce qu'on fait chez Société Générale, il y avait déjà un certain nombre de choses qui existaient quand je suis arrivé, que j'ai été bien content d'ailleurs de voir. Ce qu'on a fait surtout, c'est une idée d'optimiser l'existant. C'est déjà lancé, donc qu'on essaye d'en tirer le meilleur et pour montrer que oui, ça a une utilité. Et la deuxième chose, c'est quand même de montrer quels sont les bénéfices pour une entreprise. Il faut bien garder en tête qu'on est dans une entreprise, que l'entreprise a un but, ça c'est du business, ça a toujours un problème de rentabilité, il y a l'éternelle question du ROI sur la présence sur les réseaux sociaux qui est assez difficile, pas qui commence à se dessiner. Et j'avais dans une présentation, j'avais entendu parler du ROI, c'est-à-dire le retour sur non-investment. qu'est-ce qu'on risquerait à ne pas être dessus. Alors, si je prends l'exemple Société Générale. Société Générale, on a une forte présence sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Pourquoi ? Ouais. Parce que sur les réseaux sociaux, on a nos clients qui sont là. Donc, on se doit de leur répondre quand ils nous posent des questions, quand ils nous interpellent. Tout naturellement, on a réussi à convaincre le management de la boîte que c'était une forte opportunité pour le groupe d'utiliser les réseaux sociaux comme nouveau canal pour les clients, puisqu'ils étaient là. Je parle notamment des clients de la banque de détail en France, qui viennent poser des questions, mon chèque, est-ce qu'il va être encaissé, mon virement, ma carte bleue que j'ai perdue, des trucs comme ça. Il faut voir quand même actuellement que Twitter est vraiment en train de devenir un grand canal d'expression des clients de la plupart des grandes entreprises.
Ouais. C'est devenu vraiment courant en France maintenant. Enfin, 2012 pour moi a été vraiment l'année de Twitter.
Complètement. Donc, il y a cet aspect-là qui fait que on arrive quand même assez vite à faire comprendre l'importance des réseaux sociaux en externe, en tout cas. La notion d'irréputation vient très vite. Il faut pas grand-chose hein, pour convaincre. Le tout, c'est de montrer. Je reviens toujours pédagogie, évangélisation. Alors, il y a un deuxième aspect, c'est en interne. Pourquoi est-ce qu'on le fait en interne? Alors, il y a une des premières raisons, c'est que si on veut être fort et bénéficier des opportunités que peuvent porter les réseaux sociaux et pas tomber dans les pièges, les risques qui peuvent aussi comporté, il faut qu'on développe en interne cette même culture 2.0. Là, c'est pas forcément gagné d'avance parce que tout le monde n'est pas dessus, même s'il y a plusieurs millions de personnes sur Facebook, mais tout le monde n'est pas forcément dessus. On pense encore que c'est effectivement pour son fils, sa fille, mais pas pour soi. Et il y a un autre aspect quand même qui vient et qui peut aider, c'est la politique d'une entreprise, sa transformation. Si je prends le cas de Société Générale, qui est d'ailleurs un peu le même que celui quand j'étais chez Alcatel-Lucent. Quand j'ai rejoint Société Générale, on avait lancé un grand programme Ambition SG 2015 de transformation de la boîte qui était développé sur un certain nombre d'axes, les clients, les process, les collaborateurs et la communication. Le développement d'un réseau social interne s'est inscrit dans ce plan de transformation de la boîte. L'idée était de casser les silos, d'aller vers plus d'horizontalité, de développer la collaboration entre les collaborateurs, de développer la coopération, etc. Donc, en fait, dans ces plans de transformation des entreprises qui se généralisent un petit peu en ce moment, je pense que le réseau social est quelque chose qui est particulièrement adapté. Et une autre chose aussi qu'on voit et qu'on est en train de vivre chez nous, Société Générale, c'est que c'est un lieu identitaire qui est assez fort. Alors non, c'est pas une machine à café parce que on y travaille, même si on peut travailler aussi en discutant de machine à café.
Oui,
mais
d'accord.
C'est un lieu identitaire fort. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est assez intéressant quand on parle du développement de l'espace digital workspace. En fait, il y a des questions qui se posent, l'intranet, le réseau social, qui va gagner, est-ce que l'un va tuer l'autre, etc. Sûrement pas, tout ça évolue, et puis il faut pas avoir de position définitive sur tel ou tel outil ou mode de travail. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que l'intranet doit se transformer et continue à se transformer. Cède un petit peu de terrain par rapport au réseau social, mais de façon complémentaire. Le réseau social est malgré tout, même s'il est utilisé comme lieu de travail, un endroit qui est un peu moins formel, où la parole est certainement plus spontanée, plus facile, et un endroit où on se retrouve, mais dans l'appartenance à sa société.
Hello, this is Gary Chahot, welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.
Jean-Paul, quand tu parles comme ça, moi j'ai envie de dire que les RH, ressources humaines, ont un rôle majeur. Comment tu réagis par rapport à ce constat et comment est-ce que tu interagis avec les RH quand tu es en train d'évangéliser, comme on dit?
Alors, nous, on a la particularité, d'ailleurs, à Société Générale, d'avoir des RH qui ont été assez précurseurs sur les réseaux sociaux, notamment en externe, du côté marque employeur, recrutement, avec une présence très forte depuis longtemps sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Donc, qui ont un petit peu, ouvert la voie. Alors ensuite, si on prend le réseau social, il y a toujours un peu la question de savoir qui porte le réseau social. Est-ce que ça doit être la DSI? Est-ce que c'est la RH? Est-ce que c'est la COM? En fait, j'ai l'impression qu'il est porté, pour l'instant, faute d'avoir un département dédié, par le plus porteur dans l'entreprise. Chez nous, par exemple, il se trouve que c'est la com plus la DSI et la RH maintenant, qui par exemple a décidé d'utiliser le réseau social comme moyen d'intégration des nouveaux salariés. Ça, c'est quelque chose qui va être lancé début 2013. Tous les nouveaux salariés qui arriveront seront intégrés sur le réseau social.
Interne. Et est-ce que vous avez fait des ajustements quant aux évaluations? Parce que là, enfin pour moi évidemment, je voudrais en arriver après. Quand on est sur le web 2.0, arrive ce mot collaboration et un état d'esprit qui pousse vers l'ouverture, transparence, non modération, etc. Et donc, comment est-ce que ça a un impact sur les moyens d'évaluer les employés?
Alors, honnêtement, pour l'instant, non. On est d'ailleurs tout au début de notre aventure. Alors, quand je dis qu'on on a lancé notre réseau social officiellement à l'automne, après un très long pilote. Quand je dis un très long, ça veut dire que on a travaillé à faire évoluer une base qui existait. On a eu une démarche qui est peut-être un petit peu originale, d'optimisation de l'existant, bien qu'on ait regardé des solutions autres. Par rapport à ceux qui existaient déjà, on avait en fait un petit pilote qui avait été lancé il y a quelques années et qu'on a décidé de monter de niveau, faire un upgrade de version qui est tout à fait satisfaisant, c'est de l'open source et on a lancé un pilote qui fonctionnait totalement en communication virale. C'est la même méthode d'ailleurs qu'on avait choisie, en tout cas pour la communication virale, chez Alcatel-Lucent. C'est-à-dire qu'on a une plateforme avec des gens qui sont plutôt, je dirais pas early adopteurs, mais quand même pas loin, donc des gens qui sont qui ont une facilité à adopter ce genre de plateforme.
On va dire la deuxième vague.
Voilà. Donc, et on est monté en puissance jusqu'à atteindre près de 3000 personnes sur ce pilote au moment du lancement officiel. Donc 3000 personnes, ça fait un gros pilote. Ça permet d'ajuster, de voir comment ça fonctionne, et de constater d'ailleurs que chez Société Générale, ça répond vraiment à une attente de la part des collaborateurs, de tester d'ailleurs aussi en grandeur nature le réseau social sur l'ensemble du groupe dans les différents pays. Et là, depuis l'ouverture, on arrive à avoir autour de 5000 personnes inscrites sur le réseau social.
Bon, donc pour les ressources humaines, pour des changements, on va dire, sur les EFA, enfin les bases d'évaluation, c'est peut-être un point à venir, c'est ça?
C'est exactement.
Ok, alors là, tu as parlé de l'interne et de l'externe beaucoup. Et alors, c'est toujours, maintenant on est arrivé à un peu quand même maturation. Il y a peu de sociétés qui n'ont pas à l'intranet, il y a peu de sociétés qui n'ont pas de présence en externe. Mais il semble, ce que tu dis, moi, mon espèce de digestion, c'est que l'externe permet de justifier par rapport aux dirigeants l'utilité. Parce qu'on est tourné sur le client, c'est des choses concrètes, le marque employeur pour les RH. Et en revanche, si on ne fait pas l'effort de transformer l'état d'esprit en interne, la difficulté, c'est de réussir comme style de communication à l'externe. Comment tu réagis?
Oui, moi je pense que ce que je dis souvent, c'est que c'est par l'interne qu'on gagne la bataille externe. C'est pas forcément une bataille, mais quand même. Et qu'on ne peut pas avoir une telle fracture entre les deux. Et puis il y a aussi quelque chose. Donc même si, l'adoption comme outil de travail d'espace collaboratif en interne ou pas, va à son rythme, il faut voir quand même qu'on est dans une période où les choses vont très très vite. Tu disais par exemple que 2012 a montré vraiment l'explosion de Twitter, notamment du côté des entreprises. Mais si on pense 2009, Twitter, bon, on parlait pas beaucoup. Donc, je sais pas de quoi on parlera courant ou fin 2013. Et tout ça pour dire que, et de la même façon, quand on voit l'augmentation du nombre d'utilisateurs de Facebook qui revendiquent 1 milliard, quelle que soit la façon dont on compte, il y a beaucoup de monde et c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans notre mode de vie général, c'est-à-dire qu'on voit des hashtags dans les émissions de télé, sur les pubs, un petit peu partout. Et petit à petit, même les plus réfractaires finiront bien par être imprégnés de cette culture. Et au-delà de la conviction qu'on peut avoir, par exemple, de l'utilité des réseaux sociaux, donc par exemple pour casser les silos dans l'entreprise, pour booster la créativité, on peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire que chacun, petit à petit, des collaborateurs va rentrer chez lui dans un mode où les réseaux sociaux vont de plus en plus faire partie de sa vie. L'entreprise ne peut pas rester un temps en arrière. On risque d'avoir un décalage culturel quand même assez fort.
Alors, pour revenir à un sujet qui était les outils. Bon, on comprend que les outils, c'est au service d'un objectif. Il n'empêche que j'ai envie de dire que si on veut avoir une communication externe efficace, il faut non seulement avoir un esprit collaboratif et une rapidité, agilité en interne pour répondre dans l'heure, etc. Mais quant à l'outil lui-même, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, à ton avis, quelque part, ou en tout cas idéalement, un reflet miroir de l'outil en interne vis-à-vis de l'externe. Je m'entends. Une plateforme vraiment identique à Twitter, vraiment identique à Facebook, pour que on ait dans un même style de langage, alors que bien quand même en interne, évidemment, c'est confidentiel, externe, c'est vis-à-vis de l'externe.
Oui, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir parfois des expériences spontanée. D'une part, il y a expérience spontanée. Je vais revenir tout à l'heure, mais on a eu une expérience spontanée de microblogging qui m'a bien fait plaisir, même si on n'avait pas l'outil dédié à ce moment-là, en interne, je parle. Il y a d'abord l'adoption. Un des arguments qui est assez extraordinaire sur Facebook, c'est de dire que c'est quand même un outil qui a été adopté par des millions, des centaines de millions, ça on peut le dire, de personnes sans mode d'emploi. Quand on a vécu la période du magnétoscope et la difficulté des modes d'emploi, le fait que personne n'arrivait à le programmer, on voit une approche complètement différente. Là, il n'y a pas de mode d'emploi et tout le monde arrive assez intuitivement à utiliser une plateforme comme Facebook, même si ça devient un peu plus compliqué en ce moment. En interne, il faut qu'on fasse la même chose. On ne peut pas balancer un outil devant lequel les gens vont rester « Oh là là, c'est trop compliqué, comment ça marche ?» Et avoir quelque chose de très simple, de très intuitif, c'est quand même une garantie d'adoption. C'est-à-dire que pour certains, oui, il faut un petit peu expliquer. Je vois, je l'ai fait encore tout à l'heure, je reçois un mail de quelqu'un qui dit « Ouais, j'aimerais bien, j'ai une communauté de mentoring, en anglais, à animer, il me semble que SG Communities, qui est donc notre plateforme interne, serait bien. Donc, je passe 10 minutes au téléphone avec lui à faire le tour de la plateforme en lui présentant les principales fonctionnalités et tout. Et il dit, oh, super, ça me va bien, je me lance. Effectivement, j'ai vu qu'il s'est lancé. Donc ça, c'est vraiment très important, qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit suffisamment intuitif. Et alors, sur l'intuitivité, j'ai eu le plaisir de voir récemment que, à l'occasion d'un séminaire DSI, certains avaient pris l'initiative d'organiser un microblogging sur ce qui se passait à l'intérieur de ce séminaire sur la plateforme collaborative. Donc, on voit là, c'est du bottom-up qui se saisit d'un outil, qui essaye d'en tirer le meilleur, ou en tout cas qui essaye d'en tirer ce qui lui est utile dans le cadre de son travail.
Bon, ce qui me frappe aussi parfois, c'est que des personnes utilisent l'outil. Ils se mettent dessus, et en fait le fait de se mettre dessus peut être aussi un moyen de se différencier dans l'entreprise, c'est-à-dire que je vais porter le drapeau digital en interne et je veux en faire ma bataille, entre guillemets.
Oui, oui. Il y a d'ailleurs un truc qui est assez intéressant. Il faut pas être angélique. Le collaboratif qui donne l'impression que on va tous travailler ensemble, c'est aussi beaucoup de self-branding, je sais pas quelle traduction est validée en français, mais je suis l'expert, je suis content de pouvoir le montrer et je vais le faire. Une des fonctionnalités sur notre plateforme qui marche très bien, c'est les questions. J'ai une question à poser. Je voudrais savoir qui est responsable de ça ou qui peut me renseigner sur telle chose. Je vais poser la question en utilisant donc le petit module de questions. Moi, j'appelle ça un petit peu la bouteille à la mer, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un mail à 15 personnes qui éventuellement le renverront et peut-être par chance à la fin, j'aurai une question, je pose une bouteille sur la plage en me disant il y a quelqu'un qui va passer, qui la verra et qui aura envie de me répondre. Ça sert effectivement à montrer l'expertise, à partager l'expertise aussi. Donc, j'ai une expertise, je le montre et je la mets au service des autres.
Et je trouve ça formidable, c'est un peu à la Quora. Alors, une dernière question pour toi, Jean-Paul, parce que je sais que le temps est limité. On sait que dans, on va dire, le secteur financier, la réputation au total est un peu compliquée, que les temps étaient difficiles, et enfin, ça commence outre-mer avec nos chers Américains, mais la réalité, c'est que pour beaucoup, les banques sont difficiles de se différencier. Enfin, vu d'un consommateur, les banques, on les amalgame. À ton avis, comment est-ce que le digital peut être utilisé pour se différencier et montrer un autre angle, une autre facette d'une banque pour se différencier par rapport aux autres?
Ce que je dirais, c'est que Nous, on a une signature qui est développons ensemble l'esprit d'équipe. Et par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, pour moi, tous ces outils collaboratifs sont des outils qui permettent de mettre en pratique cette notion d'esprit d'équipe. Si je reprends mon plan, la Ambition SG 2015 pour Société Générale, dans l'axe client, ce qu'on disait, c'est qu'on avait la volonté de devenir la banque relationnelle au service de ses clients. Et ce que je trouve, c'est que les réseaux sociaux sont vraiment l'endroit où on peut être en contact direct avec ses clients. C'est vraiment un axe majeur de développement. On a désormais intégré Twitter au sein du multicanal. On passe complètement d'un aspect purement communication, entre guillemets, sur les réseaux sociaux à un aspect relation avec le client qui va commencer à parler de ses problèmes ou de ses questions en tant que client d'une banque et non pas en tant que, entre guillemets, consommateur d'image ou de communication de la banque. Donc, je crois vraiment que l'aspect relation client va être un axe majeur de développement. Alors il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais je le vois d'ailleurs pas qu'en France. Hein. Là j'ai beaucoup parlé de Twitter sur lequel on a un compte qui s'appelle SG Vous, qui est vraiment un compte dédié aux clients. Mais si je prends certaines filiales à l'étranger, des banques de détail en Slovénie, banques de détail en Roumanie, banques de détail dans la République tchèque, en Géorgie même, qui développent soit sur Twitter, soit sur Facebook, leur relation avec les clients.
Oh, c'est sympa. Est-ce que tu as d'autres exemples d'autres... Enfin, peut-être tu vas le considérer comme des concurrents en direct, mais d'autres exemples de clients, enfin, pardon, de banques qui utilisent les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis, j'imagine.
Les banques le font toutes.
Alors, Jean-Paul, je te remercie beaucoup d'avoir été sur le show avec moi. J'apprécie le temps que tu m'as alloué. Et je voudrais savoir comment est-ce que les gens peuvent te suivre, peuvent te lire, parce que je sais que tu es un homme du net.
Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter, par exemple, @JPChapon, en un seul mot. Et donc, ça sera avec plaisir de vous retrouver en ligne.
Ben, écoute, je mettrai les liens vers les autres flux que ton équipe et toi gèrent, notamment chez vous, etc. Et je te remercie beaucoup. Ça a été très instructif et très sympathique de t'avoir en ligne.
Merci, Minter, et au revoir à tous.
Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez. Don't you
I'm a grown-up.
Me too.
Yep, me too. But you know, these days, being a grown-up can really suck.
Luckily, we're grown-ups who grew up in the coolest generation.
We had video arcades.
And also some of the best TV and movies ever made.
We lived the origin of awesome consumer electronics. The list goes on and on.
Yep, Generation X.
Exactly.
And we're Gen X Grown-Up.
Every week, the Gen X Grown-Up podcast explores media, tech, toys, games, and more from both yesterday and today.
Through the eyes of Generation Xers who absolutely love that stuff. You can find us on iTunes or wherever you get your podcasts.
Or find us on our website, GenXGrownUp.com. All right, you think that was good enough?
I hope so, man. I'm tired.
Who listens to a promo on a podcast and then goes and listens to a different podcast?
Right.
I've never done it.
No, right.